enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous invite à ouvrir la Bible ce matin dans l'Évangile selon Matthieu. Je vous propose un texte de circonstance, puisqu'on est là dans le récit de la Nativité. Déjà dimanche soir passé, on a parlé dans Matthieu chapitre 1er, 18 à 24, concernant l'Annonciation et concernant Jésus étant Emmanuel. Les mages, vous avez déjà entendu parler des rois mages? Oui? Ils étaient combien? Trois? Vous êtes sûr? Ils s'appelaient comment? Ils s'appelaient Balthazar, Melchior, Gaspard. C'est sûr ça? C'est sûr qu'il s'appelait comme ça? Ça me rappelle, il y avait un missionnaire au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso, dans la zone subsahélienne. Missionnaire, lui, là-bas, il se déplace pas à cheval, il ne se déplace pas en voiture, il ne se déplace pas en 4x4, il ne se déplace pas en vélo, il ne se déplace pas en moto, il se déplace en chameau. Et il allait de village en chameau. Et son chameau, il s'appelait Balthazar. Il nous a montré les photos de son chameau Balthazar. C'est sûr, on imagine bien là les rois mages arriver en chameau. Pas comme ça, là, sûr, vous n'avez pas des cartes de Noël où vous avez trois chameaux avec les rois mages et puis une étoile au loin. Ben, c'est un peu cette histoire. On est donc dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà donc cette histoire des mages. Est-ce qu'il est dit dans le texte combien ils étaient? Non. Si on suppose qu'ils sont trois, c'est peut-être parce qu'il y avait trois présents. Ils sont venus avec trois cadeaux. Est-ce que leur nom est dans le texte? Non. Est-ce que c'est dit dans le texte que c'était des rois? Non plus. Bon, c'est pas tout à fait des rois mages. Enfin, qu'importe. C'est vrai que la tradition, les histoires, hein, on rajoute toutes sortes d'affaires. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est pas ce que peut dire la tradition, c'est que ce que peut dire la belle histoire de Noël, mais ce que dit la Bible et ce qui est écrit dans ce livre. Et ce que ça peut nous apporter aussi à nous ce matin, d'une manière concrète. Voilà donc des mages. Bizarre de voir des mages dans la Bible. Voilà des mages qui jouent le bon rôle. Parce que la dernière fois qu'on a vu des mages, enfin, une fois ça me revient à l'esprit, c'était avec Pharaon. Il y avait là autour de Pharaon des mages et il y avait Joseph Non, qu'est-ce que je dis? Il y avait Moïse. Joseph, c'est une autre histoire. Et il y avait Moïse. Et voilà que Moïse va dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple !» Et il va y avoir toutes sortes de prodiges à travers des mains de Moïse qui va dire, « Regarde, Pharaon, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui te parle. » Et il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. Et on voit les mages qui vont essayer de calquer, reproduire. Et là, les mages, les magiciens qui sont autour de Pharaon, ben vont là contre la volonté de Dieu et vont faire opposition à Moïse. Et quand on voit les mages dans d'autres passages de la Bible, on les voit souvent et toujours quasiment en opposition. Mais là, les mages ont le bon rôle. Là, les mages ont le beau rôle. Voilà que eux viennent pour adorer. Eux viennent à Jérusalem parce qu'ils ont vu dans le ciel des mages qui observent les étoiles, des mages qui observent le ciel. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui des gens qui observent les étoiles? Oh oui, oui, peut-être pour regarder, mais c'est pas avec un télescope là. Des gens qui regardent les étoiles pour voir si Uranus est aligné avec Mercure et si quand on est du signe de Jupiter et qu'on est versus ballon, je sais pas trop quoi. Et on observe les étoiles et à partir de ça, on essaye d'en tirer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de sorts et on fait son horoscope. Et voilà que ces mages, eux, regardent les étoiles. Et ils sont intrigués. Parce qu'en regardant les étoiles, apparaît une étoile qui n'était pas là auparavant. Et pour eux, et c'est surprenant de voir que pour eux, c'est clair, il est né un roi en Israël. Alors ils arrivent à Jérusalem, et là à Jérusalem, ils viennent voir Hérode, le roi qui justement est là en Israël. Ils viennent voir Hérode en disant, nous sommes venus pour adorer, pour nous prosterner, pour rendre hommage au nouveau roi qui est né en Israël. Et c'est là toute la surprise du texte, c'est que eux qui habitent Jérusalem, qui habitent Israël, ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ne se doute même pas de ce qu'un roi venait de naître en Israël. Alors que d'autres étrangers d'Orient qui viennent de loin, eux, ils sont loin, ils viennent d'Orient, eux, ils savent qu'il est né un roi, mais les gens de la place, ceux qui habitent sur place, et même dans la maison du roi Hérode, on ne sait pas. Ce sont des étrangers qui viennent leur apporter la nouvelle. Et alors quand Hérode entend ces choses, il est troublé et il va chercher les hommes religieux. Il va chercher les scribes. Il va chercher les scribes en disant, mais que dit la Bible? Est-ce que la Bible parle d'un Messie? Oui, il était question d'un Messie. Il était question du Christ qui devait venir, d'un Messie, celui qui serait roi, celui qui viendrait délivrer Israël. Et que dit-elle? Elle dit que l'enfant, que le Christ, que le Messie naîtrait à Bethléem. Et des Bethléem, il y en a deux, vous qui connaissez bien votre géographie. Il y a deux villes qui s'appellent Bethléem. Mais là, pour ne pas se tromper, il est bien dit Bethléem en Juda, Bethléem en Judée. Et donc, au travers de la lecture de la Bible, ils arrivent à dire précisément au roi Hérode, il n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem. Ils connaissent les textes. Ils connaissent la Bible, ils connaissent les prophéties, ils savent qu'un roi doit naître, ils connaissent toutes ces choses, et pourtant, ce sont des étrangers qui connaissent même pas Dieu. Des étrangers qui sont des mages, qui ont juste regardé dans les étoiles. Des étrangers qui n'ont même pas la Torah, des étrangers qui n'ont même pas la révélation, qui n'ont même pas les prophéties. Ce sont ces étrangers qui viennent dire à Hérode et qui viennent dire aux hommes religieux ce qui est en train de se passer. Parce que ceux-ci ont vu. Ils ont vu. Et parce qu'ils ont vu un signe, ils sont venus poser la bonne question. Et la question qu'ils sont venus poser en Israël, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile? Où est-il? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et ça, ce matin encore, c'est une bonne question à se poser. Où est le roi Où est le Messie? Où est le Sauveur? Et parce qu'ils ont vu un signe, ils sont venus pour l'adorer. Ils ont fait tout un long voyage, venus d'Orient. Des étrangers ont vu et les gens de la place n'ont rien vu. J'espère qu'on va pas ressembler et qu'on ressemble pas à des scribes ou à ces hommes religieux qui sont capables là de lire la Bible, qui sont capables de la réciter, qui sont capables de la connaître sous le bout des doigts, qui sont capables de dire oui, ça c'est dans telle prophétie, de tel livre, c'est exactement, eh bien, à tel endroit, c'est Michée, le prophète Michée qui a dû dire ça, et puis ça se retrouve à tel endroit, ils sortent le parchemin, ils trouvent le manuscrit, ils savent ça. Ils savent, ils peuvent répondre à Hérode en disant « Oui, c'est bien à Bethléem que doit naître le Messie. » Ils savent tout ça, mais ils ne savent pas que c'est en train de se passer. Ils ne savent pas que Jésus vient de naître. Ce sont des étrangers qui viennent leur apprendre la nouvelle. Qu'on ne ressemble pas à ces hommes aveugles qui connaissent sans connaître, qui sont là devant la Bible, qui sont là devant les textes sans voir la réalité. Ce qui est important ce matin, c'est de voir, c'est de connaître. Non pas connaître d'une manière intellectuelle, non pas connaître là comme ces scribes, ces hommes religieux, mais connaître le véritable, le Christ, le Messie. Il est vivant, il vient de naître, ils connaissent. Ces hommes religieux avaient la Bible, ils savaient que c'était à Bethléem, mais pourtant ils n'ont rien vu. Pierre, l'apôtre Pierre, écrit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Et c'est important pour nous ce matin de prêter attention à ce qui est écrit dans ce livre, à ce que Dieu nous dit au travers de la Bible. Et l'image que Pierre, je continue ce passage de Pierre, donc 2 Pierre chapitre 1 verset 19, de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et l'apôtre Pierre reprend cette histoire d'étoile et il dit l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et on sait, en lisant la Bible, que, parce que c'est repris dans bien d'autres passages, que Jésus est souvent appelé l'étoile du matin. Et là, l'apôtre Pierre dit que cette étoile du matin se lève dans vos cœurs, que Jésus puisse se lever dans nos cœurs et qu'on puisse le voir d'une manière réelle, d'une manière concrète. Quand Jésus est venu, et Matthieu va reprendre ce passage d'Ésaïe, en disant « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Une grande lumière. Et Jésus a dit lui-même « Je suis la lumière du monde. » Et c'est pas le tout de connaître le texte. C'est pas le tout de savoir que Jésus est une lumière. C'est pas le tout de savoir que sa présence éclaire, qu'il est celui qui dirige, qu'il est celui qui conduit. S'agit-il encore d'avoir les yeux ouverts et de voir cette lumière? Est-ce que vous êtes ce matin comme dans le noir? Est-ce que vous êtes ce matin comme dans l'obscurité? Ou est-ce que la lumière vous éclaire? Est-ce que vous pouvez dire oui, Jésus est pas seulement la lumière du monde, mais il est ma lumière. Il n'est pas seulement la lumière qui brille pour les autres, mais il est celui qui brille pour moi. Quand les anges sont apparus aux bergers qui étaient là en train de faire paître les moutons, Jésus venait de naître. Que vont dire les anges aux bergers? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Pas aux hommes de bonne volonté, c'est pas marqué dans ma Bible ça. Aux hommes qui l'agréent, mais car un sauveur nous est donné. J'aimerais juste insister sur ces quelques paroles. Un sauveur nous est donné. On le chante, ça, non? Je sais pas si les jeunes vont chanter ça ce soir. Un sauveur nous est donné. Oui, on va dire Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur du monde. D'accord. C'est facile à dire. Jésus est le sauveur du monde. On le croit, on est dans un pays judéo-chrétien, on pense, on croit, Jésus est le sauveur du monde. Mais de la même manière, en ce qui concerne les scribes avec Hérode, qui savaient qu'ils pouvaient proclamer la venue d'un Messie, et qui pouvait toucher du doigt et savoir d'une manière concrète ce qui est en train de se passer, comme les mages étaient en train de le faire. On peut dire Jésus est le sauveur du monde. Mais ce que vous pouvez dire ce matin, Jésus est mon sauveur. Pas seulement le sauveur du monde, mais mon sauveur. Pas seulement celui qui délivre le monde, mais celui qui me délivre, celui qui m'affranchit, celui qui me sauve. Ces mages ne se sont pas contentés d'apercevoir une étoile. Ces mages ne se sont pas contentés de voir un signe. Ces mages ne se sont pas contentés de dire « il se passe quelque chose ». Mais ils ont cherché à comprendre. Ils ont fait la route, ils ont fait du trajet. Ils arrivent à Jérusalem, ils questionnent, ils cherchent, ils demandent, ils s'informent. Tout ça, ils cherchent pour arriver jusqu'au pied de ce Sauveur, jusqu'au pied de cet enfant. De la même manière en ce qui nous concerne, on puisse chercher. Souvenez de ce passage où il est dit « cherchez et vous trouverez ». Il y en a qui voient le signe et qui se disent « oui, il semblerait qu'il se passe quelque chose ». Il faut aller plus près, il faut venir voir. Ces mages ne se sont pas contentés de dire « oui, il semblerait qu'il se passe quelque chose là-bas en Israël ». Ils disent « il faut qu'on aille voir, il faut qu'on vienne pour l'adorer ». Alors voilà que l'étoile brille, voilà qu'on leur dit « c'est à Bethléem que ça se passe ». Ils se dirigent vers Bethléem et au chapitre 10 dans Matthieu, il nous est dit là « quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie ». Il y a dans leur cœur de la joie, parce qu'ils sentent, là, ils savent qu'ils approchent enfin. Depuis des mois, ils avaient vu ça, ils avaient fait ce trajet, ils sont arrivés jusqu'à Hérode. Et voilà maintenant, enfin, alors qu'ils arrivent vers Bethléem, qu'ils voient l'étoile qui leur indique le lieu, ils sont saisis d'une très grande joie. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de la joie dans le cœur quand on s'approche. Il y a de la joie dans le cœur quand on s'approche de Jésus. Il y a de la joie dans le cœur quand Jésus devient pour nous quelqu'un de proche, non pas celui dont il est question seulement dans les livres, non pas celui de la religion, non pas celui des affaires en disant « oui, c'est la petite histoire de Noël », mais quand il devient réel, quand ça devient concret, quand on peut dire « oui, Jésus là, il est près de moi ». Voilà qu'il s'approche de lui. Et alors que l'étoile leur indique et leur montre, il rentre dans la maison. C'est bien ce qu'on a lu dans la maison, dans Matthieu 2, 11. Ils sont rentrés dans une maison. Ah bon? Je pensais qu'ils étaient rentrés dans une crèche. C'est bien ce qui a marqué dans Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison. Ah? Ben oui. Ils sont rendus dans une maison à Bethléem. Regardez, l'étoile s'est mise à briller quand? À votre avis? Quand il est né? Et pour venir d'Orient jusqu'à Jérusalem, ça met combien de temps? Ah, un peu de temps. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est quand on lit la suite du récit, quand Hérode va se rendre compte là, parce que on voit que Hérode va les questionner en disant depuis combien de temps cette étoile brille-t-elle? Hein? On a vu ça ensemble, que Hérode, il est troublé, il les a questionnés pour bien comprendre. Et puis alors, les mages vont aller pour adorer. J'accélère, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, ils vont rentrer sans aller dire au revoir à Hérode. Et quand Hérode va se rendre compte que les mages ne sont pas revenus, eh bien, il va vouloir tuer cet enfant. Et pour ça, il va donner un ordre. Il va dire « faites périr tous les enfants ». Qui ont quel âge? 2 ans. Ça veut dire que là, on est à peu près, si Hérode donne cette date-là, on est à peu près, peut-être qu'il a pris une marge, à peu près, en tout cas certainement, un peu plus d'un an après la naissance de Christ. C'est logique? C'est cohérent? Les voilà donc dans une maison. Ça change un peu des fois des clichés de la petite histoire de Noël, mais c'est ce que nous dit le texte tout simplement. Enfin, pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir des mages qui ont mis du temps et qui ont persévéré jusqu'à arriver dans cette maison. Et ils sont venus faire quoi? Ils sont venus apporter des présents. Ils sont venus se prosterner. Ils sont venus l'adorer parce qu'ils savent que cet enfant est capital, que cet enfant est important. Ils se prosternent, ils l'adorent et ils ouvrent leurs trésors qu'ils offrent à cet enfant. Et dans ces trésors, eh bien, ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et vous savez, dans l'évangile, on le disait concernant le début de l'évangile selon Matthieu, quand il était question de Jésus Emmanuel, qu'on retrouvait ça jusqu'à la fin. Là, certainement, qu'au travers de ces trois présents que les mages sont en train d'offrir à Jésus, il y aurait tout un message. Et il y a tout un message. Ils ne donnent pas n'importe quoi comme présent. Et au travers de ces présents que les mages donnent à l'enfant Jésus, eh bien, c'est une prédication quelque part, c'est un enseignement, c'est une déclaration. Voilà qui est Jésus. Il lui donne de l'or. L'or, c'est l'offrande habituelle pour les rois. C'est ce qu'on donne à un roi. On donne de l'or au roi à cette époque-là. Maintenant, peut-être que vous, vous donnez de l'or à vos voisins. Mais en ce temps-là, on donne de l'or au roi. Et voilà que les mages, en venant donner de l'or à Jésus, attestent, proclament, nous croyons que tu es roi. Déjà, il l'avait dit à Hérode, où est le roi qui vient de naître? Alors, un roi qui vient de naître doit recevoir un présent royal. Ils offrent de l'or à Jésus pour dire, nous croyons que tu es roi. Ils offrent aussi de l'encens. De l'encens. Une résine parfumée, à ce temps-là, c'était généralement à partir d'arbres, d'Inde, d'Arabie, là, et puis on faisait du parfum avec, ils offrent de l'encens. Pourquoi de l'encens? Ils sont venus se prosterner, ils sont venus l'adorer. On trouve souvent l'encens dans le sanctuaire, on trouve l'encens là dans la tente, on trouve l'encens dans le temple et sur cet autel des parfums. Dans Exode 30, il est dit, il fera brûler ainsi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes, on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Et ce parfum qui montait devant l'Éternel, devant le voile du temple, était là comme une louange, comme une adoration. C'est une expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse comme un parfum de bonne odeur qui devait monter jusqu'à Dieu. Et au travers de cet encens que les mages sont en train d'offrir à Jésus, ils sont en train là de dire, tu es digne d'être adoré. Et quelque part, c'est sa divinité qu'ils sont en train de manifester, de proclamer, en disant, oui, nous croyons que tu viens de Dieu, que tu viens du ciel, que tu viens d'en haut, et que tu es digne d'être adoré. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et quand ils se prosternent et qu'ils l'adorent, il l'adore pas comme on adore un homme. Il l'adore comme on adore un Dieu. Ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de surnaturel dans cette naissance. Ils ont vu un signe qui les a troublés, qui les a marqués, en disant, mais là, il se passe quelque chose de surnaturel. Cet enfant-là n'est pas comme les autres. Certes, il est roi. C'est lui qui va conduire son peuple, c'est lui qui va régner, c'est lui qui va être roi sur Israël. Mais il est aussi celui qui est divin, celui qui est digne d'adoration, celui qui vient d'en haut, celui devant lequel peut faire monter des parfums. Et ils offrent aussi de la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine aromatique produite par un buisson épineux qui pousse en Arabie et en Éthiopie. La myrrhe, c'est donc une aromate. Pourquoi ils offrent de la myrrhe à Jésus? Il y a là comme une valeur prophétique dans cette myrrhe qui est offerte à cet enfant. Non? Est-ce qu'il n'y a pas de la myrrhe à la fin de l'évangile aussi? Alors qu'on descend, Jésus de la croix nous dit dans Jean par exemple, Nicodème qui était allé vers Jésus de nuit, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et quelque part, les mages, dès le départ, dès la naissance de Jésus, en tout cas Matthieu nous le révèle, nous le remet là comme en évidence, que dès la naissance de Jésus, sa mort été annoncé. Il est venu pour mourir. Il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour s'offrir. Il est venu pour mourir sur la croix. Et au travers de cette mire, c'est cette proclamation de sa mort. Jésus n'est pas venu sur la terre des hommes d'une manière improvisée. Il n'y a pas de hasard. Il y avait un but. Il est venu pour une mission. Il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Les anges le proclament, un sauveur, oui. Il est venu pour sauver. Il est venu pour affranchir. Il est venu pour être roi, pour régner. Il est venu pour être acclamé, adoré, oui. Il est venu pour mourir sur une croix, afin que par sa mort, ceux qui croient en lui ne soient plus perdus, mais soient sauvés, trouvent un sauveur. Dès la fondation du monde, ces choses avaient été prévues. Dieu savait, il a cherché, il savait qu'il fallait racheter l'homme, parce que l'homme avait péché, parce que l'homme s'était égaré, parce que l'homme s'était détourné des voies de Dieu. Vous connaissez le récit du jardin d'Éden. Parce que l'homme là s'est détourné du plan parfait de Dieu. Dieu aurait pu abandonner l'homme à son triste sort. Mais Dieu, par amour, parce qu'il a tant aimé le monde, il va donner son Fils. Et on voit dans un autre passage que Jésus lui-même était volontaire. Quand il dit « Me voici, envoie-moi ». Dieu donne Jésus, le Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la bonne, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et quelque part, c'est la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu nous a donné. Moi, ce qui me fait plaisir à Noël, c'est que quand on me donne quelque chose, j'ai pas besoin de le payer. Je sais pas si vous payez vos cadeaux. Ma femme me donne un cadeau, et après je dois faire les comptes, je dis tiens. Ça vient d'où ce cadeau là? Ça vient des comptes de la famille, ah oui. Bon, mais quand quelqu'un nous offre un cadeau, on n'a pas besoin de le payer, c'est déjà payé. Et le don de Noël, le cadeau de Noël, ce que Dieu nous donne en Jésus, on n'a pas à le payer. Et d'ailleurs, on n'aurait pas été capable de le payer. Fois on nous fait des cadeaux, on n'est pas capable de payer. C'est tellement grand et Dieu est tellement riche qu'il peut dans sa bonté, dans sa richesse, mais aussi dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa miséricorde, ah ben il nous donne ce qu'il avait de plus cher. Il nous donne Jésus, afin qu'en lui nous soyons rachetés. Et ce mot « racheter » est fort, utilisé en grec en ce temps-là, « racheter », le rachat de l'esclave. Celui qui autrefois était esclave, qui n'était plus libre, esclave. Et l'apôtre Paul utilise souvent cette image pour dire « oui, nous étions esclaves du péché ». Tu faisais ce que tu voulais pas faire. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Tu dis, mais j'arrive pas à faire le bien que je veux faire et le mal que je veux pas faire. C'est plus fort que moi, je le fais. Et Jésus est venu racheter, afin que nous soyons plus esclaves, que nous soyons plus esclaves du péché, mais libres, affranchis, libérés. Il a payé le prix. J'ouvre une petite parenthèse. Quand Judas va trahir Jésus, il va le trahir pour combien de pièces? 30. C'est pas un hasard non plus, c'est 30 pièces. C'est le prix d'un esclave. Jésus lui-même va prendre la place d'un esclave, va être vendu au prix d'un esclave, va mourir de la mort d'un esclave quelque part, comme un coupable alors qu'il est innocent. Et pourquoi meurt-il? Il meurt sur une croix à notre place. Parce que c'est nous qui devrions mourir, en quelque sorte. C'est nous qui devrions être crucifiés. Pourquoi, certains diront, moi, pourquoi je devrais être crucifié? Est-ce que tu es coupable? Coupable de quoi? Coupable contre Dieu? Coupable envers Dieu? Coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu? Coupable d'être pécheur? Coupable d'être mauvais? Coupable d'avoir tourné le dos contre Dieu? Coupable! Mais Dieu, par amour, donne son Fils afin que ce soit lui qui paye, que ce soit lui qui prenne sur lui notre condamnation, afin que il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme le proclame l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, plus de condamnation. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Savoir qu'autrefois on était coupable et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais savoir aujourd'hui que Dieu a donné et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais quelle grâce, quel privilège de réaliser que, alors qu'on fête Noël, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné afin que l'on meure pas. Maintenant, on peut malgré tout offenser Dieu. De quelle manière? En refusant son cadeau. Ça vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau à quelqu'un et que la personne le refuse, n'en veuille pas? J'en veux pas de ton cadeau. Ça vous est déjà arrivé? Non? Et si vous aviez acheté, vous aviez fait un gros cadeau en disant, je ne sais pas quel exemple donner, je ne veux pas parler de belle-maman parce que c'est peut-être pas le bon exemple. Il y a quelqu'un dans votre famille, vous dites quand même là, je vais faire un effort, je vais montrer que je l'aime. Puis vous avez remarqué que plus on aime, plus on paye cher, non? C'est pas comme ça que vous faites, vous, pour les cadeaux? Quand c'est pour le cadeau d'un oncle éloigné, là, bon, on va aller au Dollarama, on va bien trouver quelque chose, hein. Bon, et si je vais au Dollarama pour acheter un cadeau à ma femme, elle va pas apprécier. Généralement, quand on aime quelqu'un, on va dire, bon, quand même, là, on va y mettre le prix. Et on y met le prix. Et Dieu y a mis le prix. A mis le plus grand des prix. Mais quand on refuse ce cadeau, et quand on dit, moi, Dieu, j'en veux pas, moi, Jésus, j'en veux pas. Moi, le don de Dieu en Jésus, j'en veux pas. Le cadeau de Dieu, c'est pas pour moi. On offense Dieu. Et on comprend la prière quand Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses ». On offense Dieu. Et on comprend aussi pourquoi Jésus dit « Le Saint-Esprit vous convaincra ». Vous convaincra en ce qui concerne le péché. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va venir nous convaincre que nous sommes pécheurs? Certains vont dire que c'est pas difficile. Il suffit qu'il vienne avec la liste de toutes nos mauvaises actions, avec la liste de toutes les choses mauvaises qu'on a pu faire, et on va être obligé de reconnaître que nous sommes pécheurs. Mais Jésus dit pas ça. Jésus dit pas le Saint-Esprit va vous convaincre que vous êtes pécheurs à cause de tout le mal que vous avez fait. Il prend juste qu'une seule chose. Le Saint-Esprit convaincra en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et ce simple fait de ne pas croire, de ne pas recevoir le don de Dieu, de ne pas croire en Jésus, c'est une offense. C'est un péché. C'est la plus grande offense que l'on peut faire à Dieu, que de dire tout ce que tu as donné en Jésus pour moi, j'en veux pas. Mais si le Saint-Esprit vient nous convaincre, c'est pour que nous nous repentions. C'est-à-dire qu'on change de voie, qu'on change de conduite, qu'on change de mentalité, et qu'on dit « Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir pendant tant d'années, tant de mois, tant de temps, d'avoir rejeté le don de Dieu en Jésus. Pardonne-moi d'avoir pas compris peut-être. Pardonne-moi d'avoir eu là le texte sous les yeux comme ces scribes et qui pourtant n'avaient pas réalisé que Jésus était né. » Pardonne-moi d'y avoir rien vu. Pardonne-moi d'avoir été, de t'avoir offensé. Pardonne-moi d'être pécheur. Et viens me sauver. Viens me secourir. Viens me délivrer. Viens m'affranchir. Je veux accepter le don que tu m'as fait et recevoir en toi la vie éternelle. Regardez comment se termine cette histoire avec les mages. Ils ont été divinement avertis. En songe, de ne pas retourner vers Hérode. Dieu va leur dire à ces mages, ne retournez pas vers Hérode. Et ils regagnent leur pays par un autre chemin. Et là encore, juste en regardant les mots, un autre chemin. De la même manière, Dieu veut que tu prennes un autre chemin, que tu changes de chemin. Jésus nous parle de deux chemins. Un chemin large et spacieux qui conduit à la perte et à la ruine. Et un chemin étroit et resserré qui conduit à Dieu. Et Jésus dit lui-même, je suis le chemin. Il est ce chemin qui conduit dans la présence de Dieu. Mais voilà que ces hommes, ces mages, parce qu'ils sont venus rencontrer Jésus et parce qu'ils croient, mais vraiment il faut de la foi pour croire que cet enfant qui a quelques semaines, quelques mois, je ne vais pas trop me risquer sur l'âge, mais croire que cet enfant a une destinée, va être sauveur, va libérer son peuple. Ils n'ont rien vu, mais ils le croient. Parce qu'il y a eu un signe là qui est venu toucher leur cœur. Et la foi, c'est ça, c'est croire. Il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien là qui vient leur prouver par A plus B, 1 plus 1 égale 2, voilà. Donc tu peux croire. Je me souviens, alors qu'on rendait témoignage sur le campus universitaire, il y avait un jeune étudiant, il s'appelait Rodolphe, il était étudiant en mathématiques. Alors, vous savez, quand on étudie à la faculté en mathématiques, hein, on sait faire une addition. Hein. Et ce qui ne tombe pas juste là, c'est que c'est faux, c'est qu'il y a une erreur. Mais quand on arrive avec la Bible et quand on veut faire des additions avec la foi, quand on veut comprendre Dieu, quand on veut l'additionner, le mettre là dans une matrice et dans un système mathématique, ça devient difficile. Parce que Dieu est bien plus grand que tout ça. Et voilà que ce jeune homme disait, moi je veux comprendre là, explique-moi, convainc-moi, prouve-moi. Est-ce qu'on vous a jamais dit des choses comme ça? Prouve-moi que Dieu existe. Fais-moi une démonstration mathématique là. Montre-moi par A plus B que c'est vrai. Et la foi nous amène à faire un pas là-dedans. Quelque chose que l'on maîtrise pas. Mais ça veut pas dire qu'on sait pas où on va. Ce jeune homme là, tout simplement le soir, est rentré chez lui dans sa chambre d'étudiant. Il a dit, je comprends rien. Et il a fait une simple prière. Cette prière qui paraît peut-être un peu folle même. Dit Dieu, si tu existes, je ne crois pas trop, mais bon, si tu existes, montre-le-moi. Et il n'y a pas eu un tableau qui, avec une main qui est venu faire toute une démonstration mathématique, mais c'est lui-même qui rend témoignage de ces choses, en disant qu'il a senti, c'est pas matériel, c'est pas rationnel, c'est pas explicable, mais au fond de lui-même, là, il y avait comme une présence, il y avait comme un sentiment qui était tellement fort et qu'il a convaincu, Dieu est vivant, Dieu est vrai. Maintenant, ce jeune homme est pasteur en France, béni soit Dieu. Voilà que la foi, quelque chose là qui vient toucher notre cœur. Il ne s'agit pas de quelque chose de rationnel forcément, mais ça ne veut pas dire qu'on est là insensé, mais on prend un autre chemin. Ils ont été divinement avertis en songe. Ils ne se sont pas dit, mais ce songe, est-ce que c'était juste un rêve? Est-ce qu'on a mal dormi? Non. Ils savent que Dieu leur a parlé. Et voilà qu'ils vont prendre un autre chemin. Et bien de la même manière, Dieu nous invite, si ce n'est pas encore fait, à prendre un autre chemin. À ne pas prendre, à rester sur le même chemin sur lequel tu étais, mais à prendre un autre chemin. La voie, le chemin, le mot qui est utilisé ici en grec, c'est tout un sens aussi. Déjà dans le livre des Actes, il est dit, il survient à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur, au sujet du chemin du Seigneur. Et c'est même comme ça que l'on appelait les premiers chrétiens, ceux qui sont dans ce chemin-là, ceux qui sont dans cette voie, ceux qui sont sur ce chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Ces mages ont changé de chemin. Parce que Dieu leur a parlé. Et bien qu'on puisse leur ressembler ce matin et de dire peut-être, Seigneur, je ne veux pas avoir les yeux fermés et puis ne pas voir les réalités spirituelles. Pas voir des choses qui sont tellement vraies, qui sont tellement réelles et être là enfermé dans toutes sortes de pensées, dans toutes sortes de raisonnements, mais simplement comme en regardant le ciel, bien voir un signe. Et Dieu fait des signes aujourd'hui encore. Peut-être le fait que vous soyez là dans ce lieu, c'est peut-être déjà un premier signe. Dieu parle. Job dit lui-même, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Si on était plus attentif, si on écoutait davantage, si on ouvrait les yeux davantage, si on cherchait davantage, eh bien on verrait comme ces mages, Dieu mette sur notre chemin des signes afin de nous conduire à Jésus. Pas de nous conduire dans telle ou telle église, mais à nous conduire à Jésus. Afin qu'en venant à Jésus, on découvre un sauveur. Qu'il ne soit pas le sauveur des autres, qu'il ne soit pas le sauveur de l'humanité seulement, mais qu'il devienne notre sauveur. Qu'on puisse se prosterner, qu'on puisse l'adorer. Et comme ces mages, reconnaître que Jésus est roi, reconnaître que Jésus est Dieu, et reconnaître toute la valeur du sens de la croix. Et alors, ils vont être conduits par Dieu sur un autre chemin. Et qu'on puisse de la même manière dans notre vie aussi être conduit, être dirigé, accepter que Dieu devienne notre bon berger, celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, celui qui nous montre le chemin, celui qui nous dit, tu vois, je t'ai montré le chemin pour venir jusqu'à Jésus, et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux te montrer le chemin, afin que tu ne prennes pas un chemin qui conduise à la mort, mais un chemin qui conduise à la vie. J'aimerais en parallèle prendre le psaume 46. On va garder en mémoire tout ce qu'on a dit ce matin et juste lire le psaume 46 au travers de cette lunette de lecture, si je peux dire les choses ainsi. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Les psaumes sont des chants, sont des cantiques. Est-ce que vous êtes capable de vous approprier ce psaume et de pouvoir chanter ce psaume avec son compositeur et de pouvoir dire « oui, oui, oui ». Je ne suis pas dans la crainte. Quand bien même autour de moi tout pourrait s'agiter, je serai sans crainte. Pourquoi ? Parce que Dieu est ma force, parce qu'il est mon soutien, parce qu'il est mon protecteur, parce qu'il est un secours qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. On peut avoir des moyens de secours qui manquent et qui font défaut. Ça arrive des fois. Que l'airbag ne se déclenche pas. On comptait dessus. L'airbag. On ne dit pas l'airbag ici ? Le coussin gonflable. En bon français, l'airbag. Ne se déclenche pas. Ça arrive ? Ou comme dans un western, on dit que la cavalerie arrive toujours à temps. Mais enfin, des fois, elle n'arrive pas. Mais Dieu, lui, c'est un secours qui ne manque jamais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent en rendre témoignage ce soir, et ce matin, décidément? S'il y en a qui peuvent en rendre témoignage ce matin et de dire c'est vrai, Dieu ne manque jamais. Dans toutes les circonstances que j'ai pu vivre, pour ma part, je peux le dire, parmi toutes les circonstances, et même les épreuves, et même les difficultés, et même les moments difficiles, vous savez, la marche avec Dieu, la marche chrétienne, ben, on est dans un monde qui a tout son lot de difficultés et de choses qui sont des fois dures, pas facile à passer au travers. Mais Dieu, lui, est toujours là. Jamais il ne nous abandonne. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un libérateur. Et comme on l'a chanté, je vais dire, ben oui, c'est un chant, le psaume 46, comme ils peuvent le chanter en ce temps-là, et bien dire, il est pour nous une haute retraite. On peut trouver en lui du réconfort, on peut trouver en lui un refuge, on peut trouver en lui une protection, et il y a cette proclamation qui tout d'un coup vient réveiller celui qui est peut-être pas dans ce psaume, et qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Peut-être si le message de Noël pouvait résonner comme ça dans le cœur de plusieurs, arrêtez. Arrêtez de courir à droite et à gauche. Arrêtez de vivre votre vie comme si Dieu n'existait pas. Arrêtez de tourner le dos à Dieu. Arrêtez de continuer de l'offenser en refusant le don qu'il veut vous faire, en refusant le présent, en refusant le cadeau, en refusant le sauveur. Arrêtez et sachez. Les mages savaient et les hommes d'Israël ne savaient même pas. Ce matin, qu'on soit plutôt de ceux qui sachent. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Puissiez-vous avoir cette vie éternelle, cette connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus. Et la conclusion de ce psaume, c'est l'Éternel est avec nous, il est pour nous une haute retraite. Que chacun puisse repartir de ce lieu dans la paix en disant « Oui, Dieu est pour moi un refuge, une autre retraite ». J'ai invité les musiciens à venir et peut-être prendre juste quelques minutes pour méditer, pour réfléchir peut-être sur ce passage. Et peut-être qu'on aura, vous aurez l'occasion dans ces temps de fête de Noël de réfléchir sur le sens, sur la signification de Noël et de dire qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné. Est-ce que Il est pour nous ce Sauveur. Est-ce que nous savons, est-ce que nous réalisons, comme ces mages ont réalisé, ou est-ce que nous sommes loin d'avoir réalisé? Mais que faut-il faire pour comprendre davantage? Approchez-vous, approche-toi de Jésus, et viens reconnaître qu'il est roi, qu'il est Dieu. Et viens contempler quelque part l'œuvre de Jésus sur la croix.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.